Même moi, j'en ai mangé un peu.
C'était
bon.
Donc,
c'est une heure un peu difficile parce que normalement c'est l'heure de la digestion. Mais on va quand même tâcher de se concentrer pour le programme de cet après-midi. Alors notre sujet c'est la Bible. Comment nous approprier la parole de Dieu pour être à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Il y a deux parties à ce sujet. Hier, nous avions la première partie. Et la deuxième et dernière partie aujourd'hui. Hier, nous avons vu pourquoi lire la Bible. Que c'est la volonté de Dieu. Que ça nous permet de connaître sa volonté. Que c'est elle qui nous a donné la nouvelle naissance. C'est la parole de Dieu qui nous permet de croître, de grandir. Et d'expérimenter la communion avec Dieu. Ensuite, nous avons vu comment la Bible nous permet de nous guider dans notre marche de tous les jours. Nous avions vu aussi comment lire la Bible. Nous avons eu commencé de nous donner quelques idées pour aider à lire la Bible. On va commencer par lire encore un verset qui nous parle du jugement que nous donne la Bible. Jean chapitre 12, verset 48.
12, 48.
Tout le verset 48. Donc là, nous voyons notre responsabilité. Nous avons entendu la parole de Dieu. Dans l'histoire, il y a des millions de personnes qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu. Encore aujourd'hui, il y a des populations isolées qui n'ont pas entendu parler de
Dieu.
Mais nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous avons une responsabilité de la mettre en pratique, de recevoir la Bible entre nos mains. C'est un grand don que Dieu nous fait. Il nous confie cela. Alors il nous redemande aussi que nous agissions en fonction de cette parole de
Dieu.
Nous avons la responsabilité de l'approfondir, on a vu. Nous avons aussi vu que cela nécessite une discipline. Que l'on prenne un moment chaque jour. par exemple fixer un moment précis. Nous avons aussi dit que c'est bien de souligner les versets, les thèmes bibliques. Que chacun peut se faire son code de couleur. Que l'on peut prendre aussi un cahier spécial d'études. Et on prend des notes que nous voulons retenir et appliquer. Comme beaucoup font aujourd'hui. Cela stimule notre attention. Ça nous aide à avoir une réflexion régulière. Ça nous permet aussi de regarder en arrière et d'évaluer nos progrès spirituels. Maintenant, pour que nous puissions bien profiter de nos lectures bibliques, cela demande aussi un esprit de prière. Ce sujet de la lecture de la Bible va ensemble avec le sujet de la
prière.
Nous avons à demander à Dieu le secours du Saint-Esprit pour comprendre. Et nous devons aussi éviter les empêchements. Dans les Éphésiens, nous avons un exemple d'empêchement.
Chapitre
4. Là, nous voyons que nous avons été scellés par le Saint-Esprit le jour où nous avons cru. On avait vu l'année passée que c'est comme un sceau de l'autorité qui a dit que nous appartenons à Dieu. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent perdre le salut. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'une fois que Dieu a mis son sceau sur nous, il ne va pas prendre une gomme pour effacer le
sceau.
Donc, lorsque nous avons véritablement cru, nous sommes scellé du Saint-Esprit pour l'éternité. Mais, autre chose, dans notre marche de tous les jours, si nous nous éloignons de lui, par de la négligence ou par un péché, alors nous attristons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne disparaît pas de nous, mais il ne peut pas agir comme il voudrait. C'est pour ça que lorsque nous voulons approfondir la lecture de la parole de Dieu, il est nécessaire d'avoir l'aide du Saint-Esprit et de ne pas la
suivre.
1 Thessaloniciens 5, verset 19. Tout petit verset qui dit n'éteignez pas l'esprit.
Alors il faut bien être clair sur ce verset. Ça
ne
veut pas dire que l'esprit n'existe plus en nous. Mais sa lumière en nous peut ne plus être visible. Si nous nous éloignons de nouveau de Dieu, l'esprit ne peut plus briller. C'est comme s'il était éteint. Donc, pour que nous ayons une méditation de la parole de Dieu éclairée par le Saint-Esprit, nous pouvons nous poser diverses questions. Dans le syllabus, il propose une douzaine de questions. Lorsque nous étudions une portion de la parole de Dieu, nous pouvons nous demander quel est le thème principal. Qu'est-ce que le passage dit à propos de Dieu, à propos du Seigneur Jésus, à propos du Saint-Esprit? Quel est le verset principal? On peut dire le verset clé aussi. Est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre? Comme ces bons rois qui recherchaient la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a un mauvais exemple à éviter? Comme la fin de la vie de Salomon. Est-ce qu'il y a un ordre auquel je puisse obéir? Quand le Seigneur nous dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Y a-t-il un avertissement auquel prendre garde? Comme dans les proverbes, garde ton cœur. Y a-t-il une promesse à croire? Comme la promesse du retour du Seigneur Jésus. Y a-t-il une réponse à une question personnelle? Peut-être que je ne comprends pas bien la prophétie. Je lis le prophète Daniel. Peut-être que je suis aidé par un commentaire. Et cela donne des réponses à mes questions. On peut se poser aussi la question, est-ce qu'il y a un enseignement qui est confirmé dans d'autres versets? C'est toujours important de considérer l'ensemble de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre pour la journée? Juste avant le dernier verset que nous avons lu, c'est dit en toutes choses rendez grâce. Alors si j'ai lu ce verset, même si c'est juste un petit verset le matin avant de travailler, je peux déjà essayer de le mettre en pratique pendant la journée. Pour rendre grâce pour différentes choses. Peut-être des petites choses de la journée, mais qui peuvent nous aider. Chacun peut penser aussi au bienfait de Dieu. Et lorsque j'ai lu ce passage, est-ce qu'il y a une raison de m'humilier de quelque chose que je n'ai pas fait? Comme le roi Josias qui s'était humilié pour son peuple et pour lui parce qu'ils avaient découvert la loi et il s'était rendu compte qu'il ne l'accomplissait pas.
Et
ensuite, à la fin du passage, remercier Dieu et peut-être pour quelque chose de précis que nous avons reçu dans ce passage. Maintenant, nous allons voir un peu plus précisément comment étudier la Bible.
Deux Timothée,
Là, nous voyons l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Ce sont ses derniers enseignements pour Timothée. Et il lui dit d'avoir un modèle de tout ce qu'il a entendu de l'apôtre Paul. Alors, ça peut être une sorte de résumé, par exemple.
Que peut-être
que Timothée avait fait pris des notes aussi. Il était nécessaire d'avoir une base pour se rappeler les choses. Parce que nous oublions vite. Alors par exemple, on peut étudier la Bible en choisissant d'étudier un livre. À la FBS, cette fois, nous avons plusieurs livres bibliques que nous pouvons étudier. Quand nous rentrons chez nous à la fin, il y a au moins deux possibilités. Nous pouvons reprendre le résumé d'un livre que nous avons étudié
ici.
Nous pouvons aussi choisir un nouveau livre que nous n'avons pas encore étudié. S'il existe un commentaire, peut-être que nous pouvons essayer d'emprunter ou acheter un commentaire. Demandez à un frère peut-être plus ancien, plus expérimenté. Voir s'il y a quelque chose dans les livres de l'Assemblée. Se renseigner au centre biblique. Et alors on peut commencer de lire. C'est même utile de le lire plusieurs fois. Naturellement, si ce sont des longs livres, ça prend plus de temps. Mais les épîtres qui sont si importantes,
elles ne
sont pas très longues. C'est plus facile de les lire plusieurs fois. Ensuite, on peut chercher de faire un plan du livre. Il y a l'introduction, la conclusion. Il y a peut-être deux ou trois thèmes importants que nous cherchions à les écrire et à faire une liste. Et à chaque partie que nous étudions, nous pouvons nous poser des questions. Et qui est le personnage principal, par exemple? De quoi on parle? Quel sujet? Ou dans quel lieu l'action se situe? Quand, à quel moment de l'histoire? Comment les faits se déroulent? Pourquoi est-ce que Dieu parle de telle ou telle manière? Ce Ce sont des types de questions que nous pouvons nous poser. Alors on peut étudier un livre, mais nous pouvons aussi étudier un personnage biblique. Par exemple, on a parlé de Timothée avant. Chercher peut-être à l'aide d'une concordance, où est-ce qu'on parle de Timothée dans le Nouveau Testament? Nous pouvons rassembler tous les versets qui parlent de lui. Peut-être que nous pouvons les recopier. Les regrouper selon divers thèmes. Peut-être pour Timothée, on peut chercher dans les Actes la première fois qu'il est parlé de lui. On peut regrouper dans les Épîtres les exhortations principales de l'apôtre Paul pour lui. Et ensuite établir un plan de, et un ordre de toutes ces choses. Troisièmement, on peut étudier, et c'est ça qui est très important notamment, la personne du Seigneur Jésus. Toute la Bible parle de lui. Plus précisément, les évangiles racontent son histoire. Il y a des fois des répétitions, mais c'est chaque fois un éclairage différent. On cherche à bien comprendre sa vie, son œuvre, son enseignement, le but de sa venue sur terre, et pour vraiment se concentrer sur lui. Un verset dans Hébreux 12.
Verset Ibidji.
Là, nous voyons le Seigneur. Là, nous voyons le Seigneur Jésus qu'il faut fixer. Naturellement, nous ne voyons pas le Seigneur Jésus personnellement. Mais lorsqu'on lit des passages qui le concernent, c'est important de vraiment nous concentrer sur sa personne. Bien comprendre son œuvre. Et petit à petit, on va être transformé par lui. Épître aux Colossiens, chapitre Ibidji, verset Mwanda Muketete.
Merci.
Donc nous allons marcher dans le Seigneur Jésus dans le sens de sa personne. Il est dit enraciné et édifié en lui. Enraciné, c'est comme en profondeur.
Et
Un arbre qui a des racines profondes, il va être solide dans la
tempête.
Si nous connaissons bien le Seigneur Jésus et sa personne, on sera comme enraciné solidement. Et ensuite, il y a le mot édifié en lui. C'est comme une maison en hauteur cette fois. Spirituellement, nous sommes aussi comme une construction qui va grandir. Et de nouveau basé sur le Seigneur et selon le Seigneur. Encore un verset,
2 Corinthiens 3, 18.
Ici, nous voyons que plus nous regardons le Seigneur dans les Écritures, plus nous regardons sa gloire, eh bien, nous allons être transformés petit à petit. Nous allons lui ressembler par le Saint-Esprit. Voilà, donc ça c'est une chose importante d'étudier la personne du Seigneur Jésus. Un autre objet, d'étude, c'est d'étudier une doctrine.
Oui.
Donc il y a différentes doctrines dans la Bible. Par exemple, la doctrine du salut. Bien comprendre comment Dieu a prévu de nous sauver. Le christianisme est à l'opposé de toutes les religions du monde. Toutes les religions du monde disent fais ceci, fais cela et peut-être tu seras
sauvé.
Mais le christianisme dit c'est déjà payé, tes fautes sont déjà payées dans le Seigneur Jésus. Il suffit de croire en son œuvre. Et après, on désirera faire des bonnes choses pour le remercier. Alors, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui concernent le salut. L'année passée, on avait étudié la doctrine du Saint-Esprit. Tout ce qui touchait la personne du Saint-Esprit. On sait que beaucoup de chrétiens, la majorité dans le monde, ils comprennent mal des points essentiels qui touchent le Saint-Esprit. Et si nous voulons pouvoir leur répondre, si nous avons un dialogue, c'est important d'étudier. Donc on peut repérer les principaux passages dans la Bible. Certaines Bibles ont des chaînes de référence, par exemple. C'est important de lire ces passages, pas seulement tout seul, mais de lire un peu avant, un peu après. Pour bien comprendre le contexte,
et
pas sortir ce verset isolé de son contexte général,
on
risquerait de mal le comprendre. Et puis c'est bien si on peut faire un plan. Écrire les différents thèmes, les différents points principaux de la doctrine. On laisse passer l'avion. Et puis, lorsqu'on a plusieurs parties, c'est bien de mettre des références bibliques à côté de chaque partie.
Et puis,
ça va appuyer chaque partie du plan que l'on a choisi.
Et
si une fois on a l'occasion de donner le message sur cette doctrine, un message, on aura déjà une suite de versets qui nous appuient sur les thèmes. On parle de la doctrine du salut et qu'on a différents points. Et qu'en face de chaque point, il y a un verset. Ça nous aidera à l'expliquer. Et ceci, c'est valable pour chaque situation. Cela peut être une sœur à l'école du dimanche. Cela peut être un frère dans une réunion d'études. Cela peut être lorsqu'on donne un message à l'assemblée en édification. Cela peut être des moments d'études bibliques à la maison, en privé, avec quelques voisins peut-être. Une fois qu'on a cette base, on pourra avoir beaucoup d'utilité pour les autres. Voilà, maintenant, nouveau point, le point 4, un programme de lecture. Alors la Bible, ce n'est pas juste un prospectus de 4 pages. Dans la Bible française, il y a environ 1000 pages. Alors je ne peux pas dire en rentrant du travail, je vais lire ma Bible en une fois. Si on veut lire la Bible en entier, il faut un programme. Il y en a qui disent par exemple, je vais lire un chapitre chaque jour. Vous avez une idée combien de temps il faut pour que Oui, Père Jean.
Chapitre.
Alors ça fait combien d'années de lecture? On divise par 365 jours par année.
Par année.
Et ça nous donne environ 3 ans et demi.
Hein? 3 ans.
Donc c'est court mais c'est long aussi.
Oui.
Alors c'est déjà bien si en 3 ans et demi on a lu toute la Bible.
3
ans et quart, un petit peu moins que 3 ans et demi. Oui, alors c'est bon, ça va plus vite encore. Alors, il y aura des parties de la Bible où on aura un peu de la peine. Par exemple, il y a dans les nombres beaucoup de listes de familles et de noms. Peut-être là on va pouvoir lire un peu plus vite. Mais quand on arrive à l'Apocalypse, si on lit trop vite, on ne comprend rien. Il faudra approfondir et avoir des aides de
compréhension.
Il y en a d'autres qui font un plan de lecture sur 5 années. Il y a un frère qui s'appelle Jean Keklin, qui est avec le Seigneur depuis plusieurs années. Il a fait 5 petits livres.
Ce
n'est pas un grand livre, mais assez épais. Il y a une page pour chaque jour. Avec un passage à lire et un petit commentaire. Il y en a d'autres aussi qui ont fait ça.
Mais
il a calculé pour qu'en 5 ans, on ait lu toute la Bible. Et puis que ce soit varié, Ancien, Nouveau Testament et différents textes. Pour ceux qui lisent le français, c'est pas mal. Il y en a d'autres qui disent, j'aimerais lire la Bible en une année. Ça implique encore plus de lecture. Alors dans le résumé, on cite la Ligue pour la lecture de la Bible. Ou bien il y a un fascicule qui s'appelle 52 semaines. Qui propose justement la lecture en 52
semaines.
Maintenant, quel outil pour lire la Bible?
Alors,
naturellement, nous avons besoin d'une bonne Bible. Déjà, en Chiluba, vous avez la Bible en entier. Dans beaucoup de langues, il y a seulement le Nouveau Testament. Dans d'autres langues, il y a une traduction qui est difficile à suivre. J'étais une fois au Tadjikistan, en Asie centrale. Ils ont une traduction de la Bible qui a été faite par un juif il y a bien des années. Il y a beaucoup de termes très littéraires de la Perse. Et le simple Tadjik qui n'a pas fait beaucoup d'école, il a de la peine à comprendre. Et depuis plusieurs années, il y a quelques frères qui reprennent ce texte chapitre par chapitre pour rester fidèle mais avec des mots plus compréhensibles. Maintenant, c'est en français, vous connaissez peut-être les différentes traductions un peu. Pour une étude approfondie, comme on en parle maintenant, c'est nécessaire d'avoir une étude assez littérale. Peut-être que certains d'entre vous ont une Bible d'Arbi, par exemple. Ou une autre colombe. Ou une autre second Scofield avec
Banter.
Aujourd'hui, il y a aussi une Bible MacArthur avec d'autres commentaires. Et puis, si vous lisez une autre langue, vous trouvez encore beaucoup d'autres choses. Par exemple, le frère Pierre qui connaît l'anglais, il peut lire encore beaucoup d'autres. Mais déjà, si vous en avez une ou deux, c'est déjà pas mal.
Ah, quand j'ai dit qu'elle va pas au
il y a des fois aussi des manuels d'introduction à l'étude.
kujiye mu mikanda iji kupesha mushindu wo kubwela twajijulu wo kubana mukanda wanzami.
Il y a ce qu'on appelle une concordance qui aide aussi.
Kuji mukanda uji bambane mukanda uji ufila ya yo ni kanda mishirishilangane iji nifuna mukanda wanzami.
Une concordance c'est comme un dictionnaire mais qui a seulement les mots de la Bible.
Kaji concordance ça mweza nubu muji dictionnaire je tuti tubale ya français ka je njenza anu bwa miaku ya mumukanda wanzambi.
En général la concordance ne va pas expliquer les bons.
Ka junu amanye concordance ke nu yikunvuisha miaku to.
Mais elle va donner les versets où se trouve tel ou tel mot.
Ka juju ku pesha vensa mulongo iji yikunvuisha bo lu bumu buju kenela ku yila mumukanda wanzambi.
Alors si je fais une étude par exemple sur l'apôtre Paul,
meme mweze ji la ni diisha pa mupostolo Paul.
Si je prends le mot Paul,
même moi quand nous m'occupe Paul,
ça va me donner les versets chaque fois.
Bah, il parle
beaucoup.
Vers le moulon, il dit à quoi là nous parle Paul.
Si par exemple, pour donner une autre idée, la Pâque.
Oui, moi quand nous m'occupe Pâque, m'offende.
Je peux voir les versets de la Pâque juive qui parlent de cela.
Bah, je parle déjà bon le Pâque, bon son vers yon si j'avais le Pâque, quoi ben ayud.
Cela m'aide à trouver où on parle de la Pâque dans la Bible.
Nous, monini, mumukando anzambi, mumukanda kayo, je veux pas que le Pâque.
Ensuite, on peut aussi avoir un dictionnaire.
Bidibim pour capter quoi, quoi quand on est dictionnaire, mumukanda ou du onvuija.
Ça peut être un dictionnaire, je ne sais pas, Chiluba, vous avez des dictionnaires aussi?
Djidjipele, kaje ni miaku ya bu njijuku ya Chiluba, djijuku, kaje njipele, bori ki njanji kuikale jine ne mene mene to, djijuku, ya Chiluba, kajiku djija en
français. Ou un dictionnaire français.
Djija en français, djiju, ajiku mpinje ou mapite.
Parce qu'il y a des fois dans la Bible des mots difficiles.
Bolubu wa mumuka ando wanzami, mouji miaku mikol, nyinge yi mikol.
Il y a bien des mots qui ne sont pas tellement utilisés dans le langage courant. Et puis, avec un dictionnaire, ça nous aide à comprendre. En plus, il y a des commentaires. Des commentaires bibliques qui vont nous aider à comprendre le contexte.
Comment
était la vie courante au temps du Seigneur Jésus?
On
en a parlé un petit peu pour Job ce matin, comment était la vie à son époque. Il y a des commentaires qui expliquent aussi les passages bibliques. Il y a des études simples et d'autres très détaillées. J'avais vu l'année passée que vous avez beaucoup de livres de la Bible en Chiluba que vous pouvez étudier.
Ah. Mwane tuvu mutuleja kubwa tuvu ni mumikande ya mukilbe ya bunyi tuvu kabije mokoye kuyila yituje nayo mwabeo.
Et ensuite vous avez des manuels de doctrine biblique.
Ni mujimikande minga yaye kuimana pamayisha antako amumukande wanzani.
On explique les principales doctrines de la Bible.
Yaye bukumvuija amumayisha antako mumukande wanzani.
Maintenant nous passons au chapitre suivant, principe d'interprétation.
Apa tu yaya mu chituva chikwa abu chijitwambila amuma
nous lisons Jean 17, verset
8.
Oui.
Là on voit le Seigneur Jésus qui a reçu les paroles de la part de Dieu le Père. Ce chapitre est un magnifique chapitre où l'on voit une prière du Seigneur Jésus à Dieu. Donc Dieu le Père a donné des paroles au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous les a transmis aux apôtres et ensuite à nous. Pour que nous croyions et que nous les recevions. Donc ce que nous avons, ça vient de la part de Dieu. Maintenant Jean 6, verset 63, la deuxième partie. Les paroles. Donc on voit ici que les paroles que nous pouvons lire, ce n'est pas simplement des paroles d'un homme, mais c'est l'esprit et c'est la vie.
Nous avons dit que c'est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur.
Et l'importance aussi, c'est de bien interpréter et expliquer.
Nous avons dit que c'est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur.
Nous pouvons lire dans Néhémie chapitre 8.
C'est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur.
Verset 8, la deuxième partie.
Chapitre
8, verset 8.
Tu dis, mon ami, il y a chapitre 1, où on a dit, on a dit,
Lisons tout le verset 8.
Après les chroniques. Chapitre 2, Amanda Mokoud. Verset 2, Amanda Mokoud.
Oui.
Donc Néhémie va rassembler le peuple, beaucoup de monde. Et il va les regrouper par groupes séparés.
Et
nous voyons Néhémie
qui
organise le peuple
et
des Lévites dans chaque groupe.
Ils
lisent distinctement la
Bible.
Donc pas à toute vitesse et à la moitié on ne comprend
pas.
Mais distinctement.
Et
après la lecture de la loi,
il
donne le sens.
Ils font
comprendre.
Et
ça, c'est une responsabilité que nous avons tous.
Et
de lire distinctement et de comprendre.
Et
ensuite de transmettre plus loin ce que nous avons compris. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs versets qui sont chapitre 3, verset
7. On
peut se rappeler Jean
3:16.
On ne le lit pas maintenant. Mais on peut aussi se rappeler
2 Timothée 3:16. C'est
un verset très important pour la lecture de la
Bible.
Alors dans ce verset, nous voyons que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible entière. Avec le but de convaincre. Corriger si on s'est trompé quelque chose. Pour nous instruire dans ce qui est juste. Alors ce verset nous montre comme c'est important de la lire et de la méditer. La parole de Dieu nous donne aussi une puissance pour déclarer. Dans les actes, on voit aussi que les apôtres avaient une force spéciale avec la parole de Dieu. Actes 1:21-22.
Il faut donc. Bien zéji, chapitre wokum pala. Ben soit ma première bidine wum. Ma première de mouibi. Oui. Oui.
Donc on voit que les apôtres avaient une autorité particulière parce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur Jésus et ils avaient été témoins de sa résurrection. Dans 2 Pierre chapitre
3,
voyons donc que la parole elle-même confirme aussi qui a de l'autorité. Là, nous voyons que l'apôtre Pierre confirme l'autorité de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas marché avec le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus lui était apparu lors d'une vision spéciale. Il a eu des révélations de la part de Dieu. Et un don spécial pour expliquer toutes ces choses qui concernent l'Église.
Et
des fois, il y a des choses difficiles à comprendre. L'apôtre Pierre le dit déjà à l'époque pour les lettres de Paul qui circulaient. Il y en a certains qui ne comprenaient pas bien. Ou qui faisait exprès de changer. Donc ils les tordent. Des gens soit qui ont peu de connaissances, ou bien mal affermis. Là, il faut faire attention de ne pas déformer la parole. Si j'ai des passages que je ne comprends pas très bien, qui paraissent obscurs,
il ne
faut pas dire on ne comprend pas bien, tant pis, on laisse de côté. Si Dieu nous a donné sa parole, ce n'est pas pour qu'on enlève tout ce qu'on comprend
pas.
Surtout ce qui peut-être nous dérange. Il faut approfondir pour comprendre le
sens.
Et l'Esprit de Dieu va nous éclairer. C'est lui qui nous fait connaître les choses de Dieu. Qui renouvelle aussi notre intelligence.
Et
Épître aux Romains chapitre 12.
Le verset 10.
Ça, c'est un verset très important. Parce que nous sommes tous influencés par le pays, la culture dans laquelle nous vivons.
Et
suivant les époques, la culture se modifie aussi. La culture en Europe, il y a 100 ans et aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Alors avant comme aujourd'hui, on a le risque de se faire influencer pour être déformé dans notre compréhension. Donc c'est nécessaire de se placer devant Dieu pour être renouvelé dans notre compréhension. Et alors nous pouvons comprendre la volonté de Dieu. Et c'est quelque chose à faire régulièrement. Surtout devant les textes qui nous posent des difficultés. Soit difficulté de compréhension, soit difficulté d'application. Parce que nous sommes à contre-courant de notre culture. Alors, on pourrait être tenté de négliger certaines exhortations. Parce que ça nous demande d'être à contre-courant. Et cela demande des efforts. Le prophète Daniel avait eu des visions.
Mon prophète Daniel,
chacun peut les lire, on ne va pas les lire maintenant. Mais il n'a pas tout de suite compris ce qu'il voyait. Il a dû expliquer aussi des songes, d'empereurs, des empereurs, des rois. Il a dû aussi demander à Dieu de pouvoir comprendre l'interprétation. Nous devons aussi prendre garde. On voit des exhortations de Paul à Timothée. D'éviter des disputes de mort avec des fables et des choses qui sont
vagues.
Du temps des Juifs, il y avait beaucoup de légendes qu'on racontait. Il y en a qui se demandaient qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, et ils faisaient beaucoup de discussions. Et Paul dit, mais ça ne sert à rien de s'allonger sur ces choses qui ne portent pas de fruits. Notamment pour les Juifs, c'est important de savoir de quelle tribu, de quelle lignée ils sont.
Ils passaient
beaucoup de temps à voir la généalogie. Alors l'apôtre Paul leur demande de passer du temps à des choses utiles. 2 Corinthiens 11, verset 3.
Ne avambishiwe kugira matajawo ne utoke wawo
Oui.
Là, on voit que la parole de Dieu, souvent, quand on lit un texte, pour bien l'interpréter, il faut prendre le premier sens, sens qui apparaît. Il ne faut pas chercher simplement un sens différent tout de
suite.
Il est possible qu'on ne comprenne pas tout de suite le sens.
Il faut
donc voir le contexte et d'autres passages pour bien le comprendre. Mais parfois c'est assez simple, mais le sens nous dérange. Alors on cherche des autres explications. On cherche à le comprendre autrement. Alors là, nos pensées risquent de se déformer. Et de se détourner de la simple vérité. Alors rappelons-nous la simplicité quant au Christ. Surtout si ce sont des passages qui vont impliquer peut-être une difficulté pour mettre en pratique dans ma vie.
Et
que je préférerais comprendre autrement. Nous avons tous la tendance de préférer comprendre un petit peu autrement.
Et
malheureusement, même dans les commentaires bibliques, on va trouver des commentateurs comme on a envie de les écouter.
Il
faut régulièrement se remettre avec humilité devant le Seigneur. Acte 17, verset 11. Il y a des croyants qui sont un exemple pour nous. Donc pour recevoir, pour bien comprendre la parole de Dieu, il faut avoir déjà de la bonne volonté. Être vraiment honnête. Et puis examiner aussi les Écritures, si c'est bien comme on l'a compris. Et eux, ils vérifiaient ce que Paul disait.
Ils ne
disaient pas, oui, c'est très bien ce que tu dis. Mais ils cherchaient dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, si ce que disait Paul correspondait. Par exemple, on peut penser qu'il leur disait, Ésaïe 53, ça parle du Messie qui souffre.
Et
Jésus-Christ est le Messie qui a souffert.
Ce
que beaucoup de Juifs n'avaient pas compris avant. Alors ils prenaient leur chapitre 53
d'Ésaïe
et ils vérifiaient. Aussi, tout ce que nous disons ici à l'AFPS, tout ce que vous lisez dans les syllabus, c'est important chacun de vérifier pour soi. Parce que nous pouvons aussi nous tromper. Maintenant, pour terminer, quelques éléments d'une méthode analytique.
Analysez,
c'est aller plus en profondeur dans le détail d'un sujet.
On va
tâcher de voir le contenu d'un passage ou d'un livre
biblique. On a dit qu'on
va tâcher de faire un plan.
On
va chercher à comprendre nous sommes dans quelle étape de la révélation de Dieu envers
l'homme.
Quels sont les événements historiques?
L'environnement.
On va faire une analyse du texte dans le détail.
Et
le syllabus nous précise, on va commencer par prendre des traductions littérales. Si on a un choix de traduction, il faut commencer par ce qui est le plus près du texte original.
Et
après, on peut aller vers des traductions qui sont déjà un peu des interprétations,
qui
peuvent présenter des traductions intéressantes,
mais qui
seront moins fiables parce que plus loin du texte original.
On
va analyser les verbes, la grammaire, les
formes pour
bien comprendre le sens. Par exemple, il y a aujourd'hui dans différents cantiques, en tout cas en français, qui parle du Dieu trois fois
saint.
C'est un exemple typique d'une erreur de la compréhension
grammaticale.
On trouve dans la Bible quelques textes qui disent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Alors si on ne connaît pas bien la grammaire, on va dire Dieu est trois fois
saint.
Et on va dire simplement, voilà, on va chanter la gloire du Dieu trois fois
saint. Mais
qu'est-ce que ça veut dire trois
fois saint?
En réalité, c'est peut-être un terme difficile, mais ce n'est pas une locution multiplicative, mais une locution répétitive.
Ça veut
dire que Dieu, il est
saint.
Point. Et ça, certaines fois dans la Bible, on va le répéter trois
fois. Dieu est
saint, saint, saint.
Mais
il n'est pas deux fois, quatre fois,
dix fois saint. C'est pas une multiplication.
Alors c'est bien d'être proche de la grammaire du
texte pour.
Ensuite, la structure du passage est aussi importante à comprendre.
S'il
y a des questions, des illustrations, des images, la forme littéraire, par exemple. Est-ce que c'est un proverbe comme ce matin? Est-ce que c'est une parabole comme le
Seigneur Jean?
Pour comprendre, il faut savoir le style aussi de cette forme littéraire. Il faut comprendre aussi l'Ancien Testament en rapport avec le Nouveau. Voir des parallèles. Rechercher l'enseignement de toute la Bible, une harmonie. Et puis demander régulièrement dans la prière que Dieu nous ouvre nos yeux. Que l'Esprit nous conduise dans la vérité. Que l'Esprit habite en nous. Et ainsi, petit à petit, la parole va habiter
en nous.
Il y a aussi la mémorisation.
Qui
s'est malheureusement perdu, en tout cas beaucoup en Europe. Autrefois, pour l'école du dimanche, il y avait chaque fois un verset à prendre par cœur. Alors je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les assemblées. Mais dans notre assemblée, il y a la tendance de dire: oh, ces pauvres enfants, il ne faut pas trop les pousser, trop les
forcer.
Après, ils n'auront plus envie de venir à l'assemblée.
Oui.
Après, si on les pousse trop, ils n'auront pas envie de venir. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de se baser sur l'envie. Et on essaye au maximum d'éviter la contrainte. Mais au bout d'un moment, si on veut apprendre une matière, il faut étudier avec effort. Avec le jeu, on arrive jusqu'à un certain point. Et après, il faut des efforts. C'est pour ça que c'est bien si nous pouvons mémoriser des passages de la Bible. Il y a des pays où on ne peut même plus avoir des Bibles. Parce qu'il y a un gouvernement qui persécute les chrétiens. Alors les chrétiens sont heureux de se rappeler ce qu'ils ont appris. Nous terminons avec un dernier verset.
1
Thessaloniciens 5, 18. Alors que en toute chose, nous rendons grâce. Et avant tout, que nous avons la parole de Dieu entre les mains. Autrefois, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Ils étaient dépendants des moines pour lire la Bible. Aujourd'hui, une grande partie de la population du monde sait lire. Depuis 500 ans, il y a l'impression de l'imprimerie qui permet d'avoir beaucoup de
Bibles.
Avant, il fallait tout copier à la main. Et en plus, nous sommes dans un pays, que ce soit en Suisse ou au Congo, qui est libre d'avoir des Bibles. Alors que nous rendions grâce à notre Dieu et que nous profitions de
étudier
la Bible.